Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui dans Musique traditionnelle, nous réaccueillons Ludovic Lantner qui nous présente donc son groupe Les Folques de Pi. Et nous allons commencer tout de suite par un morceau qui est Le Gué Labouré. Une bourrée trois temps que je connais bien d'ailleurs. Donc Ludovic Lantner, bonjour.
Bonjour.
Et Armand, bonjour aussi.
Bonjour.
Armand aux manettes, j'ai failli l'oublier. Donc nous étions partis la dernière fois sur la présentation de votre groupe, Ludovic, qui est composé de 5 musiciens. Est-ce que vous pouvez me les rappeler, s'il vous plaît?
Oui, alors on est un quatuor à cordes et une flûte traversière. Des instruments vraiment très classiques issus des formations symphoniques. Et on a, je ne vais pas rappeler les noms, mais...
rappelez-les.
Si
oui,
alors,
oui.
Ok, donc il y a à la flûte et au piccolo, Harmonie Malter, à l'alto, Manuel Renaud, au violon avec moi, c'est Maïwenn Merer, et puis au violoncelle, c'est Pierre Cordier.
Donc une formation effectivement très classique, et vous jouez de la bourrée trois temps.
Voilà, alors on joue de la bourrée trois temps. Disons que ce qu'on vient d'entendre, c'est un réarrangement d'un thème. Un thème que j'ai récupéré de quelqu'un, d'une amie, qui le tenait d'un ami. Donc c'était le voyage d'un thème et dont j'avais aucune idée de la source. Alors j'ai fait des petites recherches et puis j'ai découvert le duo Rivo-Lacouchi et j'ai écouté leur version.
Eh bien, pas mal, fait, hein, le duo Rivo-Lacouchi,
ouais.
Ils sont bons quand
ouais,
même.
Ouais. Hein. C'est vrai que ça,
elles sont bonnes.
C'est inspirant. Et l'idée, en fait, c'est pas... Bon, c'est vrai que principalement, c'est moi qui essaie d'arranger les musiques traditionnelles ou bien de faire des compositions, d'inventer des danses pour le bal. Mais là, j'ai commencé à obliquer vers une méthode un peu nouvelle, c'est-à-dire rencontrer des arrangeurs ou des musiciens de talent à qui je traite ces thèmes en donnant des instructions, des sources à écouter, des choses comme ça. Et après, c'est à eux d'avoir une page blanche pour faire leur arrangement dans le style qui les intéresse. Et là, c'est Stéphane Pellegri, à la fois un collègue et un ami à nous, qui a une grande connaissance du jazz et qui est percussionniste. Donc on s'est dit, c'est intéressant parce qu'il va pouvoir à la fois nous ouvrir un peu des sonorités modales et aussi faire valoir ses connaissances rythmiques pour que ça serve le danseur, quoi.
Alors, donc, histoire de rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs ce que vous faites, donc vous venez du milieu plutôt classique, vous jouez dans un orchestre depuis plus de 15 ans, vous êtes professionnel et vous vous êtes intéressé à la musique traditionnelle et surtout à la fusion de plusieurs mondes. Et là, dans ce morceau, j'entends qu'il y a vraiment beaucoup de choses puisqu'il y a la bourrée trois temps qui est, a priori, bon, si c'est du duo Rivola-Cushi, c'est plutôt du Limousin. Votre pétrissage classique et puis cet arrangeur rythmique de jazz, ça fait vraiment quelque chose complètement fusion. Tout
ouais,
à fait.
Voilà, c'est ça. C'est une expérience en fait. J'aimerais bien en profiter de cette idée de parler de ce qui m'intéresse justement à la croisée de tous ces chemins. C'est ce qui m'a plu au moment où j'ai découvert les musiques traditionnelles, c'est que je sentais ce fossé autour de moi qui m'empêchait d'aller vers d'autres univers musicaux. Donc je me suis d'abord rapproché de musiciens, et donc j'ai sympathisé avec eux, je les ai suivis, j'ai regardé comment ils faisaient, je les ai vus bosser. Moi, je connaissais, quand j'avais 30 ans, j'avais encore jamais fait une session. Et là, j'ai commencé à les voir échanger leur répertoire à l'oreille, comme ça, et puis improviser. Et donc, je ne savais pas comment gagner tout de suite leur niveau, leur habilité. Donc, je me suis dit comment faire, et je suis parti de l'idée simple d'écouter beaucoup et d'essayer de transcrire à l'oreille. Donc j'ai fait pas mal de transcriptions des musiques traditionnelles. J'ai
essayé d'adapter
pour notre formation classique.
Vous les avez écrites ?
Voilà, je repique. On dit repiquer, je reprends le thème, mais tout ce que j'entends dans une partition, dans un morceau.
Ah, même les appoggiatures, alors même les...
Oui, les appoggiatures. Donc là, il y a des techniques aussi modernes qui sont sympas. Aujourd'hui, on peut, sans baisser le pitch, ralentir une musique. Et du coup, on a le temps d'entendre ce qui se passe et de deviner un peu des choses qui, des fois, nous échappent en vitesse normale. Donc ce travail-là, c'était un travail lent, mais qui a été hyper enrichissant. Et puis surtout, ça m'a permis de commencer à remplir des partitions, à l'écrit, à essayer d'arranger. Donc je me suis un peu fait la main de manière autonome, mais parce que je n'avais pas d'autres moyens, je ne savais pas comment y aller, quoi.
Oui.
Et en fait, à force de faire ça, je pense quand même que j'ai un petit peu gagné en compréhension plus fine du style. Alors je suis loin d'avoir le style, et ça j'en ai bien conscience, mais en tout cas, j'essaie de m'en rapprocher de cette méthode, de cette manière. Et c'est vrai que de toute manière, il s'opère une forme de fusion à partir du moment où je vais dans ce sens-là, puisque j'y vais avec mon bagage à moi et qu'il finit par être toujours présent. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de confier ce type de travail, d'arrangement à des gens qui ont un autre bagage culturel, quoi.
Oui, alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que le travail que vous avez fait est énorme. C'est-à-dire que vous êtes allé en session. C'est-à-dire, rappelons-le aux auditeurs et auditrices, c'est-à-dire des musiciens qui se retrouvent autour d'une bière, un thé, un café et qui jouent ensemble des morceaux qu'ils connaissent ou pas, qu'ils attrapent à l'oreille. Et vous, ça veut dire que vous avez enregistré, vous avez pris le temps d'enregistrer, vous l'avez décortiqué et réécrit pour pouvoir rentrer dans cette musique qui était... Est-ce qu'elle vous a paru hermétique ou au contraire... tellement attractive que vous aviez envie de vous l'approprier avec vos propres moyens.
Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'elle était suffisamment étrange, attractive, c'est-à-dire qu'elle me plaisait. Elle me plaisait beaucoup, elle m'intriguait. Quand je l'écoute avec une oreille active, c'est-à-dire où j'essaie de tout décortiquer ce que j'entends, de comprendre le langage, ça me fascine. Et en même temps, elle reste très sauvage. Et c'est ce côté sauvage qui est beau et que j'aime, qui échappe un peu à l'esprit. Mais quand même qu'on arrive à s'approprier petit à petit par ce travail-là, par cette tout doucement, cette acclimatation, on s'accommode de l'oreille, commence à comprendre certains détails qui au départ paraissent invisibles et incompréhensibles. Donc il y a un travail quand même que j'ai vu apparaître. Et le fait de l'écrire, ça c'est moi qui fais comme ça un musicien traditionnel, il met tout dans sa mémoire et dans ses muscles, dans sa peau. Moi, c'est plus, j'ai besoin de mon support écrit, et quand j'écris une ornementation, quelque part, j'essaie de trouver une façon de noter le geste technique et aussi le son que ça crée.
Mais c'est intéressant de voir une autre méthode, justement, que celle de l'oreille. Alors. Et justement, j'attrape le mot sauvage au passage, parce que à la fin du premier podcast, j'ai parlé d'une soi-disant scission entre la musique classique et la musique traditionnelle. D'un côté, la musique classique avec son intellectualisation, son milieu mondain, le fait que ça doit être joué par des gens qui ont eu une certaine éducation, et puis cette musique populaire qui est la musique traditionnelle, avec l'oreille, avec son côté même parfois un peu honteux, et qui finalement est très attractif, parce que comme vous le dites, quand on vient d'un milieu et qu'on essaye d'écouter une autre musique qu'on ne connaît pas du tout, eh bien c'est à la fois attractif et à la fois complètement... hostile, on va dire. C'est pas si facile que ça d'attraper le style classique, comme c'est pas facile d'attraper le style traditionnel ou irlandais, ou de jouer de la musique chinoise, par exemple.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que même pour vous qui avez travaillé votre instrument, qui travaillez dans un orchestre depuis 15 ans, de se retrouver en session, finalement, ça n'a pas été inné.
C'est pas du tout quelque chose d'évident, ouais. C'est vraiment un... On voit que c'est un entraînement, c'est quelque chose qui peut prendre du temps et il faut beaucoup s'investir. Et moi, c'est vrai que j'ai pris un peu de temps, mais je ne peux pas m'investir complètement dans une ou des musiques traditionnelles pour vraiment me rapprocher le plus de leur essence. Mais j'essaie d'en capter au moins certaines choses. Donc chacun est sur son chemin, un endroit. Et voilà, on fait un disque, c'est une photo du moment où on est du lieu où on est sur ce chemin-là, qui n'a peut-être pas forcément une arrivée précise, mais qui est certes long.
Et puis, parce que vous y êtes à 5, là, à y réfléchir. Donc je suppose que ça fait 5 chemins différents sur cette approche de cette musique.
Oui, mais après, c'est vrai qu'on se répartit un peu les tâches. Souvent, on ne fait pas forcément tout ce travail-là tous ensemble. Hein. Il y en a un qui travaille pour aller essayer de repérer, noter les choses, et puis les autres qui vont compléter. Mais bon, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ce qu'il y a, je dirais, pour nous, qui est une vraie énigme, c'est que on n'est pas... On ne sera jamais détenteur de quelque chose de véritable, et on ne peut pas être une référence. C'est sûr, on le sait. Et donc c'est difficile, parce que dès qu'on note quelque part, on s'éloigne de la réalité de la source sonore, quoi. Donc la meilleure des notations, c'est la source sonore dans le cas de musique trad. C'est l'enregistrement, c'est le collectage. Donc l'important, c'est d'avoir nos sources, de savoir où sont nos références, et après nous, on gravite autour de ça, mais avec modestie, puisqu'on sait très bien qu'on est... qu'on emprunte quelque chose par-ci, par-là, qu'on essaie de s'approprier quelques éléments, et puis voilà.
Mais vous faites le lien. Je trouve que vous faites le lien entre deux mondes qui pourraient paraître se regarder en chien de fusil. C'est-à-dire le classique qui pourrait dire « Ouh là là, la musique populaire, moi, c'est pas pour moi. » Et la musique populaire qui pourrait se dire « Ouh là, le classique, c'est bien trop intellectuel, j'en ai pas envie. Ouais. » Et vous sortez un truc qui dit « Bah non, regardez, on peut... » Enfin, nous, on vient plutôt de la musique classique, mais on a été attirés par la musique populaire et on a envie de faire un lien. On a envie de faire quelque chose de ça.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est d'abord l'envie de ne pas se sentir exclu ou qu'un lieu ne nous soit pas éternellement interdit. Donc si on a vraiment un amour, un plaisir à écouter ces musiques, à les observer, à rencontrer les gens, c'est vrai qu'on a envie d'y aller, il nous faut des moyens, faut y aller, quoi. Et je pense qu'effectivement, il y a dans ces cloisonnements entre ces mondes musicaux, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que je pense que jusqu'à mes 30 ans, je n'ai jamais été incité ni à écrire de la musique, ni à composer, ni vraiment à jouer par cœur, à improviser. Enfin, ce monde-là n'était pas stimulé. On ne nous demandait pas ces compétences-là. Et quelque part, on est écrasé aussi par le poids de la tradition, des compositeurs, c'est comme des dieux vivants pour nous, on nous les enseigne comme des, et c'est des monstres sacrés. C'est effectivement, moi je suis toujours complètement subjugué quand j'essaie d'observer un Beethoven, un Mozart, qui étaient ces êtres surhumains, c'est vrai. Mais en même temps que si on reste écrasé sous le poids de cette grande culture, et on s'empêche d'exister par le simple fait de dire je chante, je compose, j'improvise, je fais de la musique, elle n'est pas...
Je crée.
Elle est ce qu'elle est, mais c'est un acte créatif,
oui,
et d'expression. Et c'est celui-ci, pour moi, qui est un vrai complément dans le cadre de l'interprétation, parce que nous, on est d'abord des interprètes dans le milieu classique. C'est quand même important, à un moment donné, d'arriver à trouver aussi un espace de liberté dans lequel on peut cultiver des choses, quoi.
Et alors moi, la liberté, vous l'avez prise en mélangeant deux styles. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la valse que vous avez choisie, qui s'appelle Philomèle, et on en parlera juste après.
Présence à Figeac, 97.7.
Thank you.
Philomèle, une valse jouée par les Folques de Pie. Alors là, on parlait de création Ludovic juste avant ce morceau. Donc là, vous avez créé ce morceau. Est-ce que c'est vous qui l'avez composé ou est-ce que vous avez juste composé les arrangements?
Non, j'ai fait le morceau, les arrangements. C'est vrai qu'on a tendance à dire que le morceau, c'est le thème. Mais pour des compositions, c'est le thème sans son accompagnement et sans l'arrangement qui va autour. C'est plus tout à fait la même musique. Donc oui, là, voilà, c'est l'entièreté, quoi.
Alors, c'est vous qui avez composé cette valse?
Oui, c'est ça. Après, souvent, je propose à mes collègues et puis on retouche un peu ensemble quand on sent que c'est mal adapté pour la danse, quand on sent qu'il y a quelque chose qu'il faut retravailler. Eux, ils me guident. Et parfois, ils viennent même mettre quelques notes par-ci, par-là pour vraiment retailler le costume, quoi.
Voilà, alors, mais, du coup, pour vous, c'est là, quand on parle de création, par exemple, de cette valse, c'est une création du groupe entier ou est-ce que vous, quand même, vous pensez que c'est votre bébé, par exemple?
Non, je dirais que c'est mon bébé, oui, parce que il est créé de toutes pièces. Mais après, l'interprétation, la manière dont mes collègues se joignent à moi pour la faire vivre, ça, c'est notre produit à nous, quoi. Oui, mais c'est vrai que ça, c'est on va dire, le lieu où je suis content que le bal folk m'offre un peu cette scène qui laisse cette page blanche. On va dire, il y a une certaine tolérance, on est ouvert à ce qu'on va entendre et on ne va pas forcément tout de suite juger, clouer au pilori telle ou telle musique. Donc c'est un espace pour moi qui libère la créativité, qui la permet. Et ça, c'est très important parce que c'est une de mes marottes, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que je recherche aussi avec le groupe, c'est repousser un peu les limites, nos limites habituelles, quoi, et puis pas trop se prendre la tête, on se met pas une pression folle. Et c'est vraiment quelque chose qui est à la base de notre joie dans ce milieu.
Alors c'est très beau. Alors par contre, je rappelle que vous avez dit que vos collègues viennent voir si quand même c'est adapté à la danse. Donc il y a quand même justement cette envie de faire danser les gens. Et donc on peut pas se permettre du coup, ou très peu, de varier trop les rythmes. Enfin en tout cas, il faut que le danseur comprenne. Il y a cet aller-retour avec les danseurs. Est-ce que dans votre vie d'artiste classique, vous avez dansé, vous avez joué pour des danseurs, comme des ballets ou...
Ça nous est arrivé, mais souvent on joue de la musique ou de la musique de ballet, donc déjà la musique a été faite aussi pour le danseur, et le danseur s'adapte à la musique. Les grandes chorégraphies, c'est comme ça. Maintenant, ça nous est arrivé de jouer aussi une fois le Sacre du Printemps et que ça soit complètement chorégraphié. Donc il y a toutes sortes de créations qui entre la danse et le passerelle qui existent. Mais en même temps, on travaille plus sur le répertoire symphonique, qui comprend de la musique de ballet et de la musique de danse. Mais dans l'opéra, il y aura beaucoup plus de répertoire spécifique pour le ballet, quoi.
Okay.
Donc on est moins familier dans notre milieu.
D'accord. Alors on reviendra là-dessus, là, sur cette histoire de musique et de danse, sur cette créativité, parce que c'est un sujet qui est très important. Nous arrivons à la fin de notre deuxième émission. Oui, je sais, c'est vite passé. Mais nous vous retrouverons très bientôt pour un prochain épisode avec à nouveau de la musique, de la créativité et puis des idées pour des gens en musique classique qui auraient envie éventuellement de passer à la musique traditionnelle. À bientôt. Au revoir.
C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.